Vous écoutez RTL.
Avis aux curieux, Sidonie, Thomas, c'est parti.
Louane, Maître Gims, Kenji Girac, Amir, Black M. Vous aimez, vous écoutez ces artistes français, ils ont un succès fou. Mais savez-vous qui compose leurs mélodies et toutes ces belles paroles? Vous allez découvrir ces hommes de l'ombre dans la seconde partie de l'émission.
Sidonie, une petite balade en mer, ça vous dit?
J'adore.
Bon, allez, on embarque tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Tiens bon le cap et tiens bon le flow. Iseo.
RTL.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me donne un rond de lapin.
Les curieux sont sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, que vous ayez le pied marin ou le mal de mer, ou les deux, soyez les bienvenus, la curiosité est un vilain défaut, sauf sur RTL, vous le savez, du lundi au vendredi de 14 à 15h, et surtout quand Sidonie Bonnet est à mes côtés.
Oh, ça fait plaisir. Moi aussi j'adore être avec vous Thomas Hugues.
Oh, c'est gentil,
tout va bien. Salut les curieux. Science, histoire, saga musicale, grand destin, aventure et nature aussi, tous ces thèmes nous passionnent, et justement, là, on a décidé de s'offrir un grand bol d'air.
Allez, je prends ma respiration. Avec notre premier invité, Dominique Lebrun, bonjour.
Et bonjour.
Bienvenue chez nous.
Vous
dans notre galère. Enfin, vous verrez.
On va galérer.
On va galérer ensemble.
Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, navigateur pour le plaisir. Vous allez nous donner quelques bons conseils avant de prendre la mer. Ça ne s'improvise pas. Est-ce que ça ne s'improvise pas même pour une sortie en Méditerranée de 2-3 jours, par exemple? Là, il y a des week-ends de longue durée qui se profilent à l'horizon.
Non, faut pas improviser, mais si on prépare un tout petit peu, ça se passe en général très très bien.
Et tiens, est-ce que c'est une mer dangereuse, la Méditerranée?
Ouais. Ouais, la pire.
C'est piégeux. La pire.
Oui,
parce qu'elle a l'air toute calme comme ça, il n'y a pas trop de marées, elle est cool.
Alors, les marées, en fait, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, pour en reparler.
Ouais.
Le problème de la Méditerranée, c'est que le vent se lève très très vite pour des raisons de relief, de mer, de température qui varient. Mmh. Et là, ça peut être épouvantable avec une mer très 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 dure.
Vous aimez naviguer de manière occasionnelle. Est-ce que c'est dans la Méditerranée que vous avez vécu les pires eaux, les pires vagues?
Quelqu'un a parlé.
Oui,
en fait, on peut le résumer très vite. Hein. J'ai été pris par un coup de vent très très dur qui a fait plusieurs morts. C'est arrivé juste à l'entrée de Port-Vendres et 8 jours plus tard, je me trouve au large de la Sardaigne après avoir dérivé, avoir chavéré une dizaine de fois, été assis 3 fois sur le plafond. C'est très désagréable.
Donc c'est la Méditerranée, Port-Vendres.
C'est la Méditerranée. Ouais.
Alors Dominique Lebrun, avec vous, on va apprendre quelques rudiments de la navigation, mais peut-être d'abord un peu mieux vous connaître. Vous êtes passionné par les océans, navigateur hédoniste, c'est comme ça que vous définissez. Où et quand vous avez appris à naviguer?
Oh ben, j'ai de la chance, je suis né au bord de la mer en Bretagne Nord, donc à 14-15 ans.
Ouais.
Il y avait une tradition dans ce petit port, on devenait le mousse, comme on dit, d'un propriétaire de bateau.
C'est quoi votre petit port?
Saint-Paul-de-Léon, le petit port s'appelle Paimpoul, c'est à côté de Roscoff, c'est adorable, oui.
Et alors donc, c'était quoi la tradition?
Ah ben, la tradition, c'est que le propriétaire de bateau avait un gamin qui apprenait le métier, qui donc était chargé, quand on voulait sortir en mer avec une marée qui descendait, de descendre le bateau avant, on appelait ça dévaler le bateau, de façon à pouvoir être en mer un petit peu plus longtemps, puisque quand la marée est basse en Bretagne Nord, on navigue pas, puisque donc il n'y a plus de mer, elle est partie, mais elle revient.
Pour ceux qui ont jamais eu la chance de naviguer, et naviguer seul par exemple, c'est quoi les sensations en mer? Sur un bateau?
Vous voulez dire seul ou...
Seul, par exemple, ou en solitaire?
Ah bah c'est un peu comme... C'est la même chose, ceux qui connaissent la randonnée en solitaire, notamment en montagne ou à ski. On vit tout de façon beaucoup plus intense. On a l'impression de vivre dans un concentré de vie. Chacun de ses gestes, de ses réflexions, prend une valeur toute particulière. Et on s'en souvient pendant très longtemps. Moi, j'adore naviguer en solitaire pour ça. Et puis en plus, il faut tout prévoir à l'avance. Si vous devez arriver pour prendre, donc vous mettre votre bateau mouillage, vous devez le préparer. Et donc on réfléchit, ça se fait bien, on est content.
Ça veut dire qu'il faut bien s'entendre avec soi-même, Dominique Lebrun, pour voyager seul. Vous engueulez pas vous-même?
La petite voix intérieure.
Bien sûr que si, c'est épouvantable même.
Vous êtes un sale con parfois?
Oh oui, souvent.
C'est vrai.
Mais vous êtes aussi un marin aguerri. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais le mal de mer?
Ah non, au contraire. Les gens qui n'ont pas le mal de mer, ou qui disent ne pas l'avoir, en général n'ont pas eu l'occasion de l'avoir. C'est fou le nombre de gens qui ont eu le mal de mer la première fois de leur vie avec moi.
C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sensibles au mal de mer sur une mer tranquille, mais avec des vraies conditions, ça s'est déclenché, c'est ça ?
C'est exactement ça. On a chacun sa limite. Certains, à la limite, commencent le bateau à quai, il y a un petit sillage, il bouge, on descend.
On est déjà
d'autres, il faut que ça fasse plusieurs mètres. Mais en fait, globalement, les individus qui n'ont pas le mal de mer sont rarissimes.
Est-ce qu'il faut manger quand on a le mal de mer pendant une traversée, pendant une balade assez longue ?
Oui.
Parce que sinon, c'est dangereux.
Mais pas n'importe quoi, parce que pour avoir eu le mal de mer sur un chalutier en mer du Nord, on m'a donné une côte d'agneau et je me rappelle que ça ne m'a pas aidé.
Alors,
ça m'a plutôt fait vomir.
La question est de savoir ce qui vous a rendu malade.
Ah ben c'est 7 mètres de creux pendant 7 jours d'affilée.
Mais non, c'était la côte d'agneau, enfin. Ouais. Non, en fait, ce à quoi il faut penser, c'est que comme ça va venir dans un sens puis dans l'autre, il faut choisir des aliments agréables dans les deux sens.
Non.
Pour cela, il en existe deux.
Allez-y.
La banane et le pruneau. Qui ont l'avantage, en plus, comme c'est très sucré, de vous nourrir très très vite.
Ah, la pomme peut-être aussi, ça fait une compote au retour.
Non, alors en revanche, il y a...
J'ai les images.
Vous n'aimez pas la compote ?
Mais non, on va se passer de compote. Allez, tiens, on va se poser une question à venir dans la curiosité. Est-ce qu'on peut avoir aussi le mal de terre ? Et on y répondra dans un instant. C'est pas la mer à boire, c'est le titre de votre livre publié aux éditions du Trésor. Et c'est un bonheur, des histoires d'hallucinations aussi à venir.
Denis Bonnec.
La mer n'existe pas, parfois nous la rêvons.
RTL.
Curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous avez remarqué, les beaux jours reviennent et l'envie de partir en mer vous titille peut-être. Ça ne s'improvise pas, on vous donne les conseils de base pour embarquer sur la mer, sur les océans, enfin toutes les eaux qui vous font rêver, avec l'écrivain Dominique Lebrun, navigateur hédoniste. On parlait du mal de mer. Est-ce qu'il y a des médicaments efficaces pour lutter contre ce mal terrible ?
Oui, il y a une petite merveille qui s'appelle scopolamine transoderme.
Oula.
C'est un patch qu'on se colle derrière l'oreille, puisqu'on sait que le mal de mer vient d'un dérèglement de l'oreille interne. Et donc, à travers la peau, ça envoie je ne sais pas quel produit. Ce produit fut un temps été mis en vente, retiré, remis en vente. Je sais que des pilotes de chasse l'utilisent aussi. Ça a un inconvénient, c'est que on fait des gestes incontrôlé.
Il y a des effets secondaires ?
Oui, alors pour ma part, je n'arrêtais pas de me gratter comme un chat, mais de l'autre oreille, donc mes équipiers m'observaient. Moi, j'étais très surpris parce que je savais que j'aurais dû être malade. Et je ne l'étais pas. Alors ça, c'est une impression.
Mais vous aviez juste l'air d'un zinzin, voilà.
En train de vous gratter l'oreille.
Je suis y penser, mais le pire, c'est que je voyais le bateau beaucoup plus large qu'il n'était réellement. Et quand je le mettais à quai, ce qui se passait, c'était que je faisais des manœuvres un peu hésitantes, mais je ne touchais pas pour autant. Quand, ayant enlevé le patch, j'ai revu le bateau, j'y ai pas cru.
Donc une forme d'hallucination.
Ouais.
Donc on l'utilise pas ce médicament. Alors du coup vous le déconseillez là parce que
non, il est très efficace, mais juste, il faut faire attention. Il semble que si on l'utilise et qu'on est malade quand même, ça peut avoir des effets alors épouvantables.
Les hallucinations, tiens, ça me fait penser aux concurrents de la course du Figaro, grande course en mer. Ils dorment très peu pendant cette course et ils ont parfois des hallucinations. Ça vous est déjà arrivé de voir des choses improbables?
Non, je suis hédoniste, hein, comme on l'a dit plusieurs fois, donc j'évite ce genre de situation. En revanche, Armel Lecléache m'a raconté, quand je l'interviewais pour son livre, qu'il arrive que fatigué, on demande à un équipier imaginaire de manœuvrer.
Alors qu'il est tout seul sur son bateau.
Alors qu'on est tout seul, évidemment, après on engueule l'équipier imaginaire parce qu'il n'a pas fait la manœuvre.
Ouais. Dormir en mer, c'est compliqué, c'est pas très confortable forcément.
Ah si, ça c'est le bonheur absolu.
Ah bon ?
Ah oui. Alors, bon, d'abord, à condition qu'il y ait quelqu'un sur le pont, on est plus
bateau,
tranquille,
oui.
Voilà. Hein ? Non, autrement, c'est merveilleux. Il y a le mouvement du bateau qui est très doux, il y a le bruit de la mer. Ah, non, là, je crois qu'on...
C'est les bras d'une maman, hein, le bateau qui berce.
Ah oui, à ce point-là.
Ah, c'est merveilleux.
Un retour, oui, c'est exactement ça.
Il n'y a pas faim, vous ?
Il y a deux expérimentés. D'abord, je voudrais savoir si on peut avoir le mal de terre, Dominique Lebrun.
Ah bien sûr.
Vous l'avez expérimenté, ça ?
Ah oui. C'est une chose très, très étonnante. Donc on touche tout d'un coup la terre ferme et comme depuis un bout de temps tout bouge, là comme ça ne bouge pas, mais on fait le mouvement soi-même.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, je crois, sur un bateau dans le Vieux-Port de La Rochelle ?
Eh bien, j'étais au pied de main en train de finir de lever les drisses et je me suis senti marcher à reculons, sans pouvoir m'arrêter. Et donc, j'ai senti les filières derrière moi. J'allais basculer. Un équipier m'a rattrapé en me disant « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je ne pouvais pas dire que c'était le mal de mer parce qu'on était toujours sur le bateau. Mais c'était bel et bien ça. On a eu beaucoup de houle.
Quand on navigue, la cuisine, c'est super important. Mais c'est quand même pas simple à faire. Quels aliments il faut éviter ? Quels sont ceux aussi à privilégier donc ?
Ce qu'il faut éviter, c'est ce qui donne le mal de mer. Si on a peu de gaz, on évite les cuissons trop lentes. Quoi qu'il y ait une astuce, c'est embarquer avec des pommes de terre à moitié cuites ou des pâtes déjà en début de cuisson qu'on rattrape ensuite. Et ben oui, comme ça on économise du gaz. Ouais. Mais en fait, quand on a faim, on a vraiment besoin de choses comme des pommes de terre, des oignons, du lard, du jambon, du roboratif.
Pour économiser l'eau douce, on peut utiliser l'eau de mer pour cuisiner ?
Et en fait, il faut en mettre très 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 peu.
Parce que c'est vraiment salé.
Ah, c'est vraiment salé, oui. D'accord. Et puis, c'est de plus en plus rare de trouver une eau de mer sans une petite pellicule d'hydrocarbures à la surface.
Ah, oui. On évite alors.
Autre conseil de cuisine en mer, il faut mieux, vous dites ça dans votre livre, c'est pas la mer à boire aux éditions du Trésor, il faut mieux cuisiner avec ça. Vous savez, les salopettes cirées jaunes ou d'autres couleurs, pourquoi ?
Eh bien, le jour où vous aurez reçu une projection d'eau bouillante sur des vêtements en coton, par exemple.
Bien sûr, avec les mouvements du bateau, là où c'est incontrôlable.
Ça peut être très grave.
Et dangereux, ouais.
C'est pas la mer à boire, c'est le titre de votre livre, Dominique Lebrun, et c'est l'une de ces expressions de marins qui sont entrées dans le langage courant. On vous dévoile l'origine dans un instant. Restez avec nous, les curieux navigateurs.
La grande marée.
La curiosité est un vilain défaut.
La marée s'en va. La marée revient.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Quand arrivera la grande marée, je tiendrai la corde, je te ramènerai dans mes filets.
Les curieux sont sur RTL.
La mer inspire les chanteurs Lavilliers, Bachelet, Miossec. Et ça nous donne aussi envie, tiens, il y a les week-ends, les ponts du mois de mai qui arrivent. On s'est dit, et si on s'offrait une balade en mer ? Sauf que moi, par exemple, je n'y connais rien, donc j'ai besoin des conseils de notre invité, le journaliste Dominique Lebrun. Vous êtes écrivain de marine. Est-ce que c'est un titre officiel, ça ?
Tout à fait. J'ai même 5 galons sur les manches d'un uniforme que je ne porte
pas. C'est sérieux ? C'est pas une blague ?
Oui, non, c'est un corps de la Marine nationale. Nous sommes 20 et pas plus. Mmh. Je crois que j'ai remplacé Michel Déon, ce qui n'est pas rien.
Classe, ouais.
Alors en fait, bravo. C'est une association d'écrivains qui, au sein de la Marine nationale, nous avons la particularité commune de vouloir faire connaître à tous notre bonheur de la mer et de la navigation. Et au niveau français, de dire qu'on existe.
Et ça marche, puisque c'est ce que vous faites en ce
absolument,
moment sur
RTL. Absolument, absolument.
Quel bonheur de partager,
cette
expérience. C'est pas la mer à boire, c'est le titre de votre livre, aux éditions du Trésor. Et donc, c'est une expression, des dictons marins comme ça, drôles et politiques, il y en a beaucoup. C'est pas la mer à boire, ça veut dire quoi ?
Eh bien, essayez, mettez-vous au bord d'une plage et imaginez que vous deviez la vider, la mer.
Ah oui.
Bon, voilà.
C'est aussi simple que
c'est
ça.
C'est aussi bête que ça.
Et il y a vraiment des dictons qui permettent de prédire le temps ?
Oui.
Oui.
Oui. Alors ça, c'est une chose étonnante, mais qui s'explique, tout simplement.
Oui.
En Manche et en Atlantique, le mauvais temps d'ouest, on appelle ça des perturbations, ou bien des entrées d'air maritimes, ou des dépressions aussi, ça se passe toujours de la même façon. Et ça conditionne des ciels dont les couleurs, dont les formes de nuages, dont la température ressentie est toujours la même. Et donc, depuis la nuit des temps, on a décrit ces ciels avec des dictons.
Vous en avez un ou deux en tête, là ?
Eh bien, si je vous dis « ciel pommelé, femme fardée ne sont pas de longue durée ».
C'est joli, ça. Quel rapport avec le maquillage ?
Eh bien, ça date de l'époque où les seules femmes qui étaient maquillées, c'était les prostituées sur les quais.
D'accord.
Et donc, on ne restait pas très longtemps avec elles. Quant au ciel pommelé, c'est vous voyez un chou ?
Oui.
Un chou pomme.
Oui.
Bon, vous voyez ça dans le ciel, ces petits nuages qui, sur un ciel bleu, arrivent brutalement faire des taches comme si, avec une éponge, vous avez mis du blanc.
Mm-hmm.
Et ça dure, en général, moins d'une heure. Et ça annonce que la perturbation arrive.
D'accord.
Et immédiatement, le vent est au sud-ouest et le ciel devient tout gris.
Alors, j'en ai un autre. Barbe de chat au nuage annonce de vent grand tapage. Les barbes de chat, c'est quoi comme nuage alors ?
Eh bien, regardez dans un ciel bleu des filaments qui partent dans tous les sens, complètement échevelés et en haute altitude. Ça, c'est une perturbation qui se prépare pour les 48 heures.
Alors, il y en a une autre expression mystérieuse et assez poétique, vous allez nous décrire, nous décrypter, Dominique Lebrun. Ciel maquerelé et queue de jument feront serrer de la toile aux vaisseaux les plus grands.
Vous pouvez traduire ?
Oui, alors, pour serrer de la toile, le vaisseau les plus grands, c'est qu'il y aura du vent, ça, c'est sûr.
D'accord.
Alors, le ciel maquerelé, vous voyez une peau de maquereau ?
Oui.
L'alternance de raies noires et argentées, et ben regardez le ciel quelquefois, vous y verrez ça. C'est ce qu'on appelle un ciel maquerelé. Ça annonce effectivement un coup de vent fort.
Donc ça marche en Manche, en Atlantique et en Méditerranée ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas du tout le même système météorologique. C'est-à-dire que les perturbations qui arrivent de l'Atlantique, elles sont très régulières, ce sont des chapelets qui arrivent depuis l'Atlantique Nord, depuis les côtes américaines. En Méditerranée, il se passe des phénomènes beaucoup plus complexes.
D'accord, et donc il n'y a pas vraiment... Si quelqu'un vous donne un dicton en Méditerranée, c'est un menteur, c'est ça ?
Non, enfin, en tout cas, peut-être qu'il peut marcher, mais peut-être qu'il peut ne pas marcher aussi.
On verra bien. Et les Beauforts, tiens, c'est quoi ? C'est la force.
C'est du fromage, non ?
C'est oui, aussi.
C'est un excellent fromage.
Ça, c'est mon côté savoyard qui s'exprime. La force du vent, ça vient d'où ?
Eh bien, c'est un amiral anglais qui s'appelait Beaufort en 1806. Il manquait aux marines à l'époque un moyen de transmettre l'information de la force du vent.
Oui.
Et il a eu cette idée de chercher la correspondance entre l'état de la mer au large, sans courant, et la force du vent. Alors, par exemple, lorsque on voit apparaître des petits moutons, donc lorsque les vagues commencent à avoir un petit peu d'écumant, juste un tout petit peu, c'est force 4.
D'accord.
Lorsque une vague déferle et que le vent prend de la partie déferlante, c'est force 7, etc., etc. Donc chaque force de vent, chaque degré d'échelle, a sa ce repère à une forme de vague à un état de la mer.
Bon, Thomas me proposait de partir avec lui en début d'émission. Je vais le plaquer pour vous. Ça ne vous dérange pas, Dominique
Lebrun ? Ça m'étonne pas, ça.
Vous avez l'air beaucoup plus sûr de vous.
Quelle surprise.
Ouais, mais bon, peut-être que j'aurai des ennuis à prendre. On va en discuter.
Ah non, mais on tout vient tout honneur. Entre collègues.
Pas. Oui. En tout cas, vous avez encore plein d'anecdotes à partager avec nous. Tiens, par exemple, c'est la transition de trouver les liens entre la marée et le sexe des enfants à naître. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer sur ce bateau. Et puis juste après, dans la curiosité, on découvre ces faiseurs de tubes, ceux qui écrivent dans l'ombre les chansons à succès pour les autres.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.
RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Balade en mer dans la curiosité. Notre skipper, c'est l'écrivain de marine Dominique Lebrun. Grâce à vous, on a appris à lutter contre le mal de mer, à cuisiner, à reconnaître la force du vent. On a appris l'origine et le sens de ces dictons marins si poétiques. On va parler des marées maintenant et découvrir peut-être ces mots. Comment appelle-t-on les marées montantes et descendantes ?
Ah, c'est très joli. On a le flux ou le flot et le jusant.
Le jusant, j'avoue que je ne connaissais pas ce mot. Ça, c'est la marée descendante de jusant.
Oui.
Ok. Et alors, surprise, dans votre livre, c'est pas la mer à boire. Je découvre. Alors, est-ce que c'est de la superstition ? Est-ce que c'est de l'observation ? Je ne sais pas. Mais le lien entre les marées et leur influence supposée sur le sexe des enfants à naître, hein, ça vient d'où ça ?
J'aimerais bien savoir. Le fait est que la tradition est qu'un enfant conçu à marée montante a plus de chances d'être un garçon. Bon, on entre sur un terrain très dangereux, là, vous savez. Parce que ça veut donc dire que la marée montante prédominerait. Enfin, c'est très inquiétant. Parce que n'oublions pas que la marée montante, c'est une force, effectivement. Mais c'est un peu facile. Mais on dit aussi que beaucoup de mourants qui vivent au bord de la mer ne partent pas avant l'étal de pleine mer et décèdent avec le début du jusant.
Jolie croyance.
Jolie croyance.
Mais
merci.
Je ne suis pas sûr que ce soit une croyance.
L'important, c'est d'y croire.
Absolument.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Dominique Lebrun. Il y a donc ce livre publié aux éditions du Trésor, C'est pas la mer à boire. Et puis tiens, on en profite aussi pour signaler la sortie de votre dernier ouvrage, Arctique, l'histoire secrète de Pythéas à Poutine, un combat de 2500 ans aux éditions Omnibus. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.